Salut à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Point de vue. Aujourd'hui, la grande dame de la dramaturgie et de la littérature canadienne n'est plus. L'Acadienne Antonine Maillet n'aura pas réussi à écrire. Jusqu'à l'âge de 100 ans, comme elle le voulait, elle nous a quittés le 17 février avec 5 ans à faire. Le monde entier lui rend hommage. Comment ne pas faire pareil, nous aussi? Sébastien Caron a recueilli une foule de témoignages.
Madame Antonine Maillet, c'était la plus grande voix de l'Acadie. C'est celle qui nous a fait connaître à travers le monde, qui a parlé d'amour, de pauvreté, d'espoir.
C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis en même temps, cette tristesse-là, puis ce sentiment de vide-là est rapidement comblé par beaucoup, beaucoup d'amour, par énormément de reconnaissance, par plein de témoignages. Ça nous fait prendre conscience davantage du privilège qu'on a eu de pouvoir travailler avec elle pour aussi longtemps, puis aujourd'hui, de faire vivre un pays.
Et Daniel Aucoin nous offre aujourd'hui sa voix et quelques-uns de ses secrets.
Et tout d'un coup, je me suis dit, je vais laisser parler une héroïne. Et c'est la Chagouine qui m'est apparue, puis c'est elle qui a parlé, et j'écrivais sous sa dictée, ma foi. Alors, c'est une œuvre qui est sortie de moi, mais qui n'était pas que de moi.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale, partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Alors, bienvenue, merci d'être là, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de vous parler de l'écrivaine Antonine Maillet, mais attendez, je sais que vous en avez beaucoup entendu, mais là, on vous offre des témoignages qui ne sont pas passés par toutes les oreilles et qu'on a pour vous donc ici. Madame Maillet, décédée le 17 février dernier, c'était, et elle le restera toujours, une femme, une artiste qui a marqué son époque grâce à ses mots, à son éloquence, à sa force, à son optimisme inébranlable, à sa grande culture aussi. L'écrivaine et dramaturge acadienne Antonine Maillet n'est donc plus, décédée lundi à l'âge vénérable, mais encore trop court de 95 ans. Elle qui espérait, dit-elle, écrire jusqu'à l'âge de 100 ans. Récipiendaire du prix Goncourt en 1979, dramaturge réputée pour la pièce La Sagouine, écrite en 1971 et qui tourne sans arrêt depuis, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, imaginez cette voix porte-parole de la minorité francophone de l'Acadie, cette défenseur du fait français en Amérique du Nord et même bien au-delà, est maintenant bien installée dans la mémoire collective d'un pays, d'une région, des minorités francophones hors Québec, voire même des États-Unis. Depuis l'annonce de son départ, son nom est sur toutes les lèvres. Nul doute qu'elle aura droit à des funérailles d'État. Enfin, je suppose, je n'ai même pas pris la peine de vérifier. Cette grande dame des mots et de la littérature née au Nouveau-Brunswick inspire, fait sourire, étonne, rend digne. Elle était pour tous les Canadiens une source d'inspiration. Elle était et est encore témoin d'une survivance qui a affronté des siècles sans jamais s'éteindre. Et son nom fait écho, bien sûr, dans les provinces maritimes et dans l'Acadie, et on sera pendu pendant un temps sur leurs lèvres via les témoignages recueillis par Sébastien Caron à Fredericton au Nouveau-Brunswick, lui qui a retenu les réactions de la ministre de la Culture du Nouveau-Brunswick, Isabelle Thériault, pour qui Antonine Maillet était l'une des plus grandes voix de l'Acadie. De Monique Poirier aussi, directrice générale du pays de la Sagouine, et de Nicole Arsenault-Sluter, présidente de la Société nationale de l'Acadie, que l'on écoute ici.
On perd un monument. Madame Antonine Maillet, c'était la plus grande voix de l'Acadie. C'est celle qui nous a fait connaître à travers le monde, qui a fait briller l'Acadie, qui a parlé des Acadiens comme étant des gens, à travers la Sagouine évidemment, comme des gens humbles, simples, qui a parlé d'amour, de pauvreté, d'espoir. Tout le peuple acadien est plongé dans une tristesse depuis hier, depuis le décès de Madame Antonine Maillet, mais évidemment dans une grande reconnaissance de tout l'impact qu'elle a eu sur notre culture et sur la littérature aussi. Mais elle nous laisse une œuvre monumentale, une œuvre extraordinaire. On pense à évidemment la Sagouine, puis Pélagie la Charrette, mais tellement d'autres travaux qu'elle a fait. Le pays de la Sagouine, qui est un bijou pour notre province, évidemment. Toutes ses pièces de théâtre, tous ses livres. C'est incommensurable. Son œuvre est incommensurable. C'est immense qu'elle nous lègue. Puis, elle va sûrement, évidemment, rester dans nos mémoires collectives très longtemps, pour toujours, finalement.
Comment on fait pour bien rendre hommage à un personnage comme Antonine Maillet?
Ben, de continuer à parler le français partout, de continuer à créer en français, de continuer à soutenir les artistes, les artisans, l'éducation en français, d'être capable de voir les communautés rurales s'épanouir, de respecter la loi sur les langues officielles. Il y a tellement de façons de pouvoir perpétuer ce legs-là. C'est à nous, les élus, de le faire. C'est aux communautés, c'est à tout le monde de prendre conscience de la richesse de cet héritage-là, puis de le perpétuer.
Pour Monique Poirier, directrice générale du pays de la Sagouine, c'est un grand vide.
Même si on savait que le départ se préparait doucement, qu'on était conscient de la fragilité de sa santé, ça n'empêche pas que quand le départ se concrétise, que c'est quand même... C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis en même temps, cette tristesse-là, puis ce sentiment de vide-là est rapidement comblé par beaucoup, beaucoup d'amour, par énormément de reconnaissance, par plein de témoignages qu'on reçoit, qu'on a entendus dans tous les médias à travers le Canada, puis même en France. Ça nous fait prendre conscience davantage du privilège qu'on a eu de pouvoir travailler avec elle pour aussi longtemps, puis aujourd'hui, ben, de faire vivre un pays qui a comme mission de célébrer la culture acadienne, de la faire rayonner, d'accueillir le monde entier pour la connaître davantage. La bonne façon de rendre hommage à Antonine Maillet, c'est de continuer à faire ce qu'on fait au pays de la Sagouine, c'est-à-dire de célébrer tout ce qui est Acadie, tant sur le plan traditionnel que contemporain, que ce soit en théâtre, en musique, en jeunesse, en nouvelles initiatives comme Acadie Lumina, par exemple, de mettre sur pied des expériences, des initiatives qui nous permettent de continuer à créer des liens avec les autres, avec les Acadiens, certainement, avec les francophones de la francophonie internationale, certainement, mais aussi avec des gens qui des nouveaux arrivants, des gens qui connaissent pas l'Acadie, des anglophones qui ont envie d'en connaître davantage. Faut continuer à faire ça. Des gens comme Antonine Maillet, puis des personnes de sa génération qui ont battu les sentiers, qui ont été les premiers vraiment à oser, ben, ils ont travaillé fort pour le faire. Puis nous, aujourd'hui, ben, on a la responsabilité de poursuivre ce travail-là, mais à notre façon, puis à la lumière de la réalité d'aujourd'hui aussi.
Nicole Arsenault-Slater, présidente de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, souligne, elle, l'impact historique d'Antonine Maillet.
Pour tous les Acadiens et Acadiennes dans le monde entier, hein, elle a été vraiment la première génération à parler de l'Acadie d'origine, du langage du vieux français. Elle est la première qui a été éduquée en littérature et qui a vraiment fait découvrir, qui a réveillé, je sais pas comment quel mot dire, mais c'est comme ça faisait 200 ans qu'on était là. Tu sais, notre histoire a été déportée, là. On était quand même cachés, là. On faisait pas de bruit, là. Elle était vraiment la première à nous mettre sur la map. OK, l'Acadie n'a pas de pays, n'a pas de frontières, mais l'Acadie existe. Puis c'est vraiment elle qui a fait tout ce travail-là en littérature, en culturel. C'est une grande dame qu'on vient de perdre. Puis avoir eu une vie jusqu'à 95 ans, là, c'est quelque chose.
Alexandre Cédric Doucet, ancien président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, estime, comme il le dit au micro de Sébastien Caron, que l'Acadie ne sera plus jamais la même sans Antonine Maillet.
L'Acadie, puis même le Nouveau-Brunswick qu'on connaît aujourd'hui, ne serait pas le même sans le passage de Mme Maillet sur cette planète. C'est une immense œuvre. Puis écoutez, je pense que lorsqu'on est acadien ou acadienne, puis qu'on regarde tout ce qu'elle a accompli, on doit quand même prendre son décès avec un sens de responsabilité de continuer le combat. On se rappellera lors du débat des élections fédérales de 1988. C'est elle qui va animer le débat entre M. Mulroney, John Turner et ainsi que Ed Broadbent. Donc, elle avait une façon de faire passer son message qui était unique. Puis je pense qu'on devrait certainement en prendre exemple.
Pour la vice-présidente de la Société nationale de l'Acadie, Norma Dubé, nous avons été chanceux de la connaître.
Je pense qu'elle a été instigatrice de recréer une certaine fierté, une certaine permission d'être fière d'être acadien et acadienne quand on voit le succès d'une de nos noms, des nôtres finalement. Tout un personnage, tout un legs qu'elle laisse. Et je pense que maintenant, c'est notre responsabilité de continuer son travail qu'elle a fait pendant tellement d'années. C'est de continuer sa mission qui est de créer cette fierté d'être francophone, d'être acadien, d'être acadienne.
Merci à Sébastien Caron, à Fredericton pour tout ce travail de mémoire et ses rencontres avec ces cinq grandes pointures de l'Acadie qui nous ont parlé d'Antonine Maillet.
Aïe, aïe, la maligne.
Notre reporter Daniel Aucoin garde d'elle un excellent souvenir et le départ d'Antonine l'a sûrement remué un peu. Lui qui avait eu l'occasion de s'entretenir avec Antonine Maillet en 2022, elle lui parlait alors de l'importance que revêtait à ses yeux l'œuvre de la Sagouine qu'elle a écrite. On garde donc Madame Maillet encore un tout petit peu avec nous. Voici cette courte conversation qu'elle a eue avec Daniel à Chétican au Nouveau-Brunswick.
Moi, j'ai laissé parler la Sagouine. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est elle qui s'est écrite. C'est incroyable, mais quand je ne savais même pas que je faisais un livre quand j'ai écrit la Sagouine. J'écrivais des textes pour la radio de Radio-Canada Moncton. Et toutes les semaines, tous les mois, je pense, c'est ça. Non, c'était toutes les semaines. J'envoyais un texte à Radio-Canada Moncton et j'en ai envoyé deux, trois, puis oh, j'étais pas contente. Ça s'appelait Prix littéraire d'Antonine Maillet. Prix littéraire. Non, c'est pas ça. Billet littéraire. Billet littéraire d'Antonine Maillet. Mais c'était pas mon genre, ça, d'écrire des choses comme ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, je vais laisser parler une héroïne. Et c'est la Sagouine qui m'est apparue. Puis c'est elle qui a parlé. Et j'écrivais sous sa dictée, ma foi. Alors, c'est une œuvre qui est sortie de moi, mais qui n'était pas que de moi. Elle était de tout un peuple qui avait des choses à dire. Et ce peuple-là a pris la parole dans la bouche d'une Sagouine, figurez-vous.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes née conteuse?
Je crois que oui. Je vais vous dire à quel moment j'ai su, sans le savoir, mais mon instinct l'a su, là, j'ai pas réfléchi, que j'allais écrire toute ma vie, c'est quand j'ai entendu mes premiers contes. Et j'ai entendu un conte raconté par une voisine qui me l'a conté. Elle était une jeune fille, puis moi, j'étais une petite fille de 3 ans. Et je sais que j'avais 3 ans, parce qu'il y avait, c'était le conte des 3 ours. Et j'ai tellement aimé ce conte-là que j'ai dit, l'année prochaine, il y aura 4 ours parce que j'aurai 4 ans. C'est comme ça que je sais que j'avais 3 ans. Et c'était Alice, puis curieusement, elle s'appelait Alice, comme si elle était Alice au pays des merveilles, qui me faisait entrer par-delà le miroir dans le pays des merveilles. Alors, j'ai adoré entendre des contes. Et là, j'allais la trouver pour qu'elle me conte encore les 3 ours. Puis elle, mais quand elle est venue fatiguée de répéter le même conte, elle m'a conté tous les autres. Et moi, figurez-vous, à 3 ans, on n'a pas idée ce qu'un enfant peut faire à 3 ans quand il est passionné de ce qu'il fait. J'ai commencé à mettre ensemble tous les contes et j'envoyais le chat botté chercher le petit chaperon rouge, puis je promenais chez Cendrillon, puis j'allais voir les 3 ours. Vous comprenez, j'étais en train de construire mes propres contes. Alors je pense que je suis devenue conteuse à 3 ans.
Madame Maillet, vous avez su toucher le cœur des gens pendant plusieurs années avec vos nombreux personnages. Comment important qu'a été votre village natal de Bouctouche pour la naissance de vos personnages?
Il a été absolument crucial. Je ne peux pas imaginer avoir écrit ce que j'ai écrit dans un autre coin de pays. C'est-à-dire que un écrivain, forcément, il va dans son arrière-pays. Puis quand je dis arrière-pays, là, c'est dans le sens que c'est son arrière-conscience à lui. C'est le fond de son cerveau qui il va cogner dans son imaginaire. Moi, j'ai dit, pour être un écrivain, il faut posséder les sens externes. Il faut voir, il faut entendre, il faut goûter, il faut sentir, il faut sentir le toucher sur sa peau. Mais il faut les sens internes. Et les sens internes pour l'écrivain, c'est d'abord la mémoire. Il faut se rappeler de même d'avant sa naissance, si on peut. Et l'imagination. Il faut créer un univers qui n'est pas le réel, mais un autre qu'on construit, et il faut de la sensibilité pour créer des émotions. C'est ça l'écrivain. Alors, c'est pourquoi tout ce qu'on vit dans le jeune âge, plus on est jeune, plus on reçoit comme un petit chien, là, comme un petit nounours, on reçoit les émotions. Il y a un petit chien qui est chez ma voisine ici, là, et il me reconnaît tout le temps, ce petit chien-là, à mon odeur. Puis il suit l'odeur. Alors, apparemment qu'il a 500 fois plus d'odeur qu'un homme, là, un chien. Alors, l'écrivain, il faut qu'il ait des odeurs, des souvenirs, des sons dans la voix, de quoi qu'il a entendu en venant au monde presque. Alors, c'est très, très important, l'enfance, pour l'écrivain. Puis l'enfance, quand on a la chance de l'avoir vécu dans un seul lieu, comme moi, bien, ce lieu-là est devenu et physique. Tout ce que j'ai écrit, presque, sans Bouctouche.
Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chétiquan.
Se rappeler même d'avant sa naissance, si on peut, nous disait Antonine Maillet en parlant du travail de l'écrivaine. On lui souhaite de revenir nous voir pour qu'elle puisse se souvenir avec nous de ce qu'elle fut et reste encore dans nos cœurs. Allez, on se remet de nos émotions avec la chanteuse acadienne originaire du Nouveau-Brunswick, Marie-Jo Thériault, avec La Maline.
Aïe, aïe, la maline. La vicieuse, la cruelle, t'as cassé les carreaux de ma si belle fenêtre qui donnait sur le ciel. Pleurer Pierre, te troubler Marie, enrager la mer, donner de la misère. Marie, mais là c'est fini la maline. Mon grand rire sauvage, mais là c'est fini la maline. Loin, loin de la ville, loin, loin de cette île.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Vous savez, nous étions jusqu'à lundi plein de bonnes intentions à Point de vue. On allait vous faire entendre une foule de reportages de nos journalistes postés à Winnipeg, Toronto, tête à la baleine. Mais bousculés par l'actualité, on a été forcés de laisser tomber. On vous propose de leur rendre visite sur fréquenceinfo.ca. Écoutez donc le reportage d'Annette Minka sur l'expo du livre à la laine de Noémie Roy, de Frédéric Lévesque qui a rencontré Samuel Bellefleur, lequel travaille rassemblé des témoignages et des portraits photos des habitants des villages de la Basse-Côte-Nord, ceci dans le cadre de son projet de livre sur la forêt boréale. Puis, on n'a pas pu vous parler non plus du 56e Festival du Voyageur qui fait la fête pendant 10 jours au cœur de l'hiver manitobain, le festival qui s'est ouvert le 14 février, se conclut ce dimanche 23 février. Gaël Impoyo nous en parle sur fréquenceinfo.ca. Mais on a encore le temps de vous parler des 5 artistes récompensés du prix en art actuel et qui exposent leurs œuvres au Musée national des beaux-arts de Québec. Ils sont tous et toutes lauréats de ce prix bisannuel en art actuel. Ruoma Awashish, Rémi Béliveau, Michel Lacombe, Anne-Marie Proulx et Santiago Tamayo Soler dévoilent au musée des projets allant de la photographie à la performance en passant par la vidéo. Des propositions qui sont toutes reliées par l'identité et le paysage, selon le commissaire et conservateur de l'art contemporain au musée, Bernard Lamarche, le reportage d'Alice Zanetta à Québec.
Des vidéos, des installations, de la photographie ou encore de la musique, les 5 artistes du prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec foisonnent cette année de médiums dans cette exposition collective. Le commissaire et conservateur de l'art contemporain au musée, Bernard Lamarche.
On est sorti de la journée du jury. J'avais vraiment l'impression qu'on avait 5 artistes dont les productions partaient dans absolument tous les sens. Et je me disais, bah, ça va être difficile de ramener ça à une proposition qui tient dans un même espace. Et au contraire, ça s'est bien dessiné au fur et à mesure qu'on avançait. La première œuvre qui a été choisie, c'est celle de Michel Lacombe, qui nous amène dans le jardin d'Éden via la peinture. Donc, une citation d'une fresque du 14e siècle italien. Et donc, la question du paysage et le fait que dans sa pièce se jouent des tensions entre la science et la religion autour du corps féminin. Donc, ça posait des questions identitaires puis de l'image de soi.
La fresque en question, que s'est réappropriée l'artiste Michel Lacombe, illustre le flanc ouvert d'Adam, d'où émerge Ève. La lauréate du prix en art actuel a reproduit sur son corps cette ouverture par une scarification, une manière d'offrir une lecture féministe des œuvres occidentales. Dans son installation « La Césarienne et la chute de l'homme », on peut apercevoir une photographie du processus entourée d'un paysage rappelant la fresque religieuse. L'artiste Michel Lacombe.
C'est une pratique d'émancipation, fait que c'est de reprendre un certain contrôle sur mon corps en le transformant. Pour moi, la transformation, c'est aussi une façon de s'auto-sentir, en fait, de s'auto-connaître. Là, on parle aussi, dans un certain sens, d'un rituel performatif où on vit quelque chose qui nous habite, qui nous transforme physiquement, mais aussi d'un point de vue psychologique. Je reconnais aussi quelque chose de sensible dans le travail, fait que c'est important de dire que le travail est très réfléchi puis est fait dans des contextes très sécuritaires.
Pour l'artiste Anne-Marie Proulx, qui est aussi l'une des 5 lauréates du prix en art actuel, c'est par le territoire, et en particulier celui de la ville de Québec, qu'elle fait résonner son identité de femme et l'identité de toutes celles qui l'ont précédée par une relecture photographique du roman « Le premier jardin » d'Anne Hébert.
Donc, ça a été un point de départ pour explorer ma ville d'une autre façon à partir de cette histoire-là qui se déroule dans la ville, mais qui cherche aussi des présences qui sont invisibles. Donc, les présences de femmes qui ont vécu dans la ville depuis les débuts de la colonisation. Puis la façon dont je l'ai trouvé, c'est beaucoup par les éléments naturels. Parce que souvent, tu sais, on pense aux villes, comment elles ont été construites, c'est souvent par des hommes. Les noms des rues, c'est souvent des hommes. Je trouve que les présences de femmes sont souvent plus discrètes, plus difficiles à trouver.
L'artiste d'origine colombienne, Santiago Tamayo Soler, explore, lui, un territoire imaginaire. celui qui mélange son pays natal au Québec, où il réside depuis 9 ans. Sur des cartes postales trafiquées, où les aurores boréales côtoient les palmiers, il écrit à ses proches son processus pour devenir un résident permanent. Un travail artistique qui se penche sur la barrière de la langue, mais qui, selon lui, révèle aujourd'hui un caractère plus politique, alors que les immigrants sont parfois diabolisés. Dans une salle, au fond de l'exposition, on découvre un documentaire sur Joanne Dularge, une icône méconnue du rock progressif acadien des années 70. En réalité, Joanne Dularge n'a jamais existé. L'artiste non-binaire, Rémi Béliveau, revisite l'histoire pour questionner notre rapport aux étiquettes.
Moi, je viens d'une communauté acadienne qui n'a pas toujours eu les moyens pour se documenter. Et donc, il y a beaucoup de fragments qui manquent dans l'histoire. Les archives sont incomplètes. Puis c'est vraiment là que moi, j'ai vu l'occasion de commencer à jouer autour de ces absences-là. C'est le gagnant qui a le privilège d'écrire l'histoire. Puis dans le cas de la communauté acadienne, ça n'a pas souvent été le cas. Moi, je viens aussi d'une perspective où je suis une personne queer qui s'identifie comme non-binaire, puis qui croit fondamentalement que mon existence, c'est pas un fait d'actualité récent, c'est quelque chose qui existe depuis le début de l'humanité, mais qui n'a pas été documenté.
Dans l'installation vidéo Kiwi, une fillette parcourt une forêt enneigée. C'est l'œuvre de l'artiste atikamekw Erwoma Awashish, qui transmet son art par une approche spirituelle. Dans son installation vidéo, qu'elle a filmée avec sa fille, elle s'adresse aux femmes autochtones disparues et assassinées.
Il ne faut pas qu'elles tombent dans l'oubli, il faut qu'on continue de penser à elles, leur envoyer de la lumière, des prières, pour que leur esprit puisse retrouver le chemin de la maison, le chemin de leur territoire. Dans ma langue, pour dire forêt, c'est Nochimik, puis quand on regarde l'étymologie de ce mot-là, ça veut dire là d'où on vient.
À l'image de cette sélection 2025 des prix en art actuel, les artistes contemporains de la relève explorent plus que jamais la question de l'identité, conclut le commissaire et conservateur Bernard Lamarche.
Et c'est pas de l'ordre de la mode, je pense que c'est des questionnements d'une profondeur assez inouïe. Comment est-ce que notre réalisation, la manière qu'on a de se réaliser et confronter aux grands pans de l'histoire, à comment la société évolue et comment on s'y retrouve sur le plan personnel.
D'ici le 21 avril, l'un des 5 artistes du prix en art actuel 2025 sera sélectionné par un jury pour publier une monographie et quelques-unes de ses œuvres seront acquises par le Musée des Beaux-Arts. Alice Zanetta pour IJL à Québec.
Et c'est là-dessus que l'on conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes Sébastien Caron, Daniel Aucoin et Alice Zanetta. Et à Julia Chénu, notre rédactrice nationale. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa et de l'initiative de journalisme local. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'être là chaque semaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!